France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Joséphine Reinhartz, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. C'est le deuxième volet de notre série consacrée à la manière dont la musique peut unir une nation. Nous évoquions hier les musiciens d'Ukraine, toujours à l'unisson, 3 ans après le début de la guerre. Aujourd'hui, dans un tout autre genre, en Corée du Sud, la K-pop, une arme de séduction.
La Corée du Sud est un très petit pays, mais sa culture est immense. Ici, la majorité des gens ne parlent pas coréen. Et pourtant, ils sont tous en train de chanter ensemble.
La K-pop et les K-drama donnent une image très harmonieuse de notre société. Tout le monde s'amuse et s'éclate. Mais avec l'état des relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, la peur du conflit, la possibilité d'une guerre, beaucoup de gens, moi y compris, s'inquiète.
What do North Koreans think of K-pop? There's a new symbol.
Que pensent les Nord-Coréens de la K-pop? Il y a un nouveau symbole.
In their train and they were singing or like
3 jeunes soldats dans leur train chantaient, faisaient semblant de danser like comme ceux du groupe BTS.
And they were all got arrested.
Et ils ont tous été arrêtés.
Entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, tant qu'elle reste psychologique, la guerre ressemble parfois à une mauvaise blague. À la frontière entre les deux, Séoul a installé depuis longtemps de gigantesques haut-parleurs, des murs entiers d'enceintes surpuissantes qui diffusent tantôt des messages de propagande sur l'air de « venez chez nous, on y est mieux », tantôt des morceaux de K-pop, la pop coréenne, en imaginant qu'elle aussi agira sur les esprits ou sur les cœurs nord-coréens pour leur donner envie de se retourner contre leur dictateur. Celui-ci, jamais court d'imagination, fait envoyer sur la Corée du Sud des ballons de baudruche remplis de déjections. Alors j'entends déjà des auditeurs dire que c'est la même chose. Alors à tous ceux qui pensent que la K-pop est de la musique qu'on a oublié de composer, rappelez-vous ce que Hermann Hesse fait dire à l'un de ses personnages. En musique, avoir raison n'a pas la moindre valeur. Ce qui importe, c'est d'observer les visages dans le public, les yeux qui brillent, les jambes qui tressaillent, les visages qui se mettent à rire. C'est pour ça aussi qu'on fait de la musique. La K-pop ferment au ciment de patriotisme aussi en Corée du Sud, où les fans sont vigilants à ce qu'elle ne soit pas trop teintée d'influences extérieures, même si la K-pop reste une fusion de genres, avec des musiques qui vont puiser dans le flamenco, la disco, le rap, un amalgame de plusieurs styles à la fois pour faire la fête et pour se donner à voir dans un style aux antipodes du modèle d'ascèse et de privation du voisin nord-coréen. Il est 19h03 à Séoul où il fait froid, 4 degrés ressenti 2. Bonjour Benjamin Joanneau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, bien couvert. Vous êtes docteur en anthropologie culturelle spécialisé en études coréennes. Vous êtes chercheur associé au Centre d'études coréennes à l'EHESS à Paris et maître de conférence à l'université Hongik à Séoul. Nous sommes également avec Philippe Mesmer. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous, correspondant donc à Tokyo pour Le Monde et pour L'Express. Vous couvrez le Japon ainsi que les deux Corées. Alors d'abord, le mot patriotisme, peut-être pour introduire cette émission dans cette semaine qui fait le lien entre patriotisme et musique. Quel sens, Benjamin Joanneau, revêt le mot de patriotisme en Corée du Sud, où l'on parle, me semble-t-il, plus volontiers ou plus souvent de nationalisme?
Tout à fait. Je crois que c'est un sens qui est assez complexe et très différent de ce que nous lui donnerions. On est très loin d'une forme de chauvinisme que l'on peut trouver, par exemple, lors d'un match de foot, par exemple, en France. On est face à un phénomène qui est plus complexe parce qu'effectivement, patriotisme en Corée du Sud va être très souvent synonyme de nationalisme et des formes particulières de ce nationalisme sud-coréen qui est un nationalisme d'abord ethnique, lié à l'idée qu'il y aurait un peuple d'un sang unique, mais dans un pays divisé, ce qui rend les choses compliquées, et donc teinté aussi pendant, en tout cas tout le deuxième XXe siècle, d'un anticommunisme. Donc on a des formes qui sont, comme vous le voyez, compliquées et étroitement liées au fait qu'il y a dans le pays une division nationale.
Un pays divisé, marqué aussi pour sa partie sud par une influence états-unienne, des bases militaires états-uniennes. Est-ce que quand on parle de patriotisme et culture sud-coréenne, on parle d'une culture originelle, entre guillemets, ou pure, ou nécessairement teintée de cette culture états-unienne, Benjamin Joanneau ?
Il n'y a bien sûr aucune culture coréenne pure, ni au nord ni au sud. Il y a des influences qui sont variées, assumées ou non, parce qu'il y a aussi une partie de la population au sud qui est anti-américaine. Il y en a d'autres, au contraire, qui supportent, par exemple, actuellement, le nouveau gouvernement Trump. Mais on ne peut pas dire qu'il y aurait, quelque part dans le monde, une culture coréenne plus pure qu'une autre.
Et la K-pop étant un phénomène récent, Philippe Mesmer, qu'est-ce qu'elle a remplacé qui jusque-là faisait la fierté des Coréens, que l'État mettait en avant au service de ce sentiment patriote, puisqu'on va le comprendre, ou à moins qu'on ne le sache déjà, mais l'État sud-coréen a fait feu de tout bois, et notamment de la K-pop, pour se vendre, entre guillemets, se vendre une image à l'extérieur.
L'impression, la K-pop est plutôt le prolongement d'une politique qui a été amorcée donc dans les années 60 du temps du dictateur Park Chun-hye, qui était de relancer l'économie sud-coréenne donc en soutenant les industries locales, donc ce qui a donné naissance, qui a permis le développement de Samsung, Hyundai et compagnie. Mmh. Et la K-pop est devenue a été considéré comme un nouveau secteur industriel dans les années 1990. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a pris conscience que la culture pouvait être un facteur de développement économique, parce que le produit culturel se vend bien. Et ensuite aussi un facteur de rayonnement international pour un pays qui était un petit peu en quête d'une reconnaissance au-delà de ses frontières, ce qui servait son économie et son développement. Donc la K-pop est devenue un nouveau secteur industriel, au début très soutenu par le gouvernement, ce soutien a été ensuite repris par les industriels, qui en ont fait un secteur vraiment porteur et tout à fait dynamique.
Donc si on parle de secteur industriel, on peut parler des auditeurs de la K-pop, de ceux qui l'écoutent, comme d'un marché. C'est d'ailleurs un terme qu'on retrouve souvent quand on parle de K-pop. Benjamin Joanneau, l'État sud-coréen, que n'a-t-il pas, dans un premier temps, d'abord soutenu, si on dit que la Corée du Sud a longtemps eu un certain complexe d'infériorité sur le plan culturel, avec une culture longtemps ignorée, notamment quand le Japon a occupé la Corée de 1910 à 1940. Pourquoi l'État sud-coréen a-t-il misé sur la K-pop, à la fois pour rayonner à l'étranger, mais aussi pour construire un sentiment national, plutôt que sur d'autres aspects de la culture, l'art bouddhiste par exemple, ou autre ?
Et en fait, je pense que c'est une question d'opportunisme, parce qu'en fait, comme l'a rappelé Philippe, c'est dans les années 1990 que commence à apparaître un phénomène qu'on appelle aujourd'hui la vague coréenne, la Hallyu, hein, qui englobe la K-pop, le succès de la K-pop, et c'est en fait dans un contexte de crise asiatique. C'est en fait parce qu'il y a une crise qu'on y répond, par les industries culturelles, et ça marche. Et c'est développé, et c'est après cela que, en fait, on va appeler ce phénomène du nom de Hallyu, et on va le théoriser, on va lui donner d'ailleurs plusieurs phases. Mais en réalité, il n'a pas été décidé dès le début, sous une forme de politique centralisée, de développer la K-pop plutôt que tel autre segment de la culture coréenne. Et maintenant, d'ailleurs, les gouvernements sud-coréens aimeraient bien diversifier vers une culture un petit peu plus élitiste et plus classique.
Donc quoi, la poterie, les sculptures qui existent aussi en Corée du Sud, et dire notre culture, c'est tout ça en même temps.
Et oui, parce qu'il y a une forme maintenant d'impérialisme, ou en tout cas de désir d'universalisme, et donc on aimerait montrer qu'en Corée, il y a une très vieille et très longue histoire, qu'il y a l'art de la céramique, comme vous le rappelez par exemple, mais aussi toute forme de culture traditionnelle, comme la musique de cour, etc., etc.
Donc 5000 ans d'histoire pour la Corée du Sud, une culture très riche, et une culture très riche qui inclut, si on regardait l'échelle de l'histoire sud-coréenne, bien sûr, on est tout au bout, ce sont vraiment ces 20 dernières années, mais on trouve par exemple le groupe BTS. Alors c'est le groupe de K-pop le plus connu, le groupe BTS, qui chante ici No More Dream, plus de rêves, et qui dans cette chanson raconte une pression sociale sur les jeunes en Corée du Sud, des exigences scolaires aussi, et en même temps on parle de ces groupes de K-pop comme s'ils étaient encouragés par le gouvernement sud-coréen pour créer ou maintenir un sentiment national. C'est assez contre-intuitif. Philippe Mesmer, est-ce que, quand bien même ils font partie d'une industrie nationale, est-ce qu'ils sont quand même un peu contrôlés, leurs paroles soumises à une lecture préalable, par exemple?
J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une relecture préalable de la part du gouvernement, mais en tous les cas, ils ont conscience, enfin les entreprises qui produisent ces groupes sont conscientes que ces groupes représentent la Corée aussi. Donc il s'agit pas de risquer de porter du pays, ça c'est important. Et puis l'autre chose, il y a l'idée de véhiculer des messages positifs, parce que ces messages positifs qui sont repris d'ailleurs, enfin, puisque le BTS est devenu un ambassadeur de l'ONU quand même, ces messages positifs sont repris au niveau international, ils sont censés attirer des touristes en Corée du Sud. Donc il y a quelque chose qui est au service d'une politique, mais il n'y a pas véritablement une censure. Je crois que c'est un consensus général entre le gouvernement, les industriels, les sociétés de production, pour faire des groupes de K-pop des véhicules d'un message positif sur la Corée et de séduction aussi, et pour donner une image d'une Corée cool, relax, qui change un petit peu de la rigueur qu'on peut avoir chez Samsung ou chez Hyundai.
Cool, relax et exemplaire en même temps. Il n'y a pas beaucoup de place au faux pas pour les stars de la K-pop. Jusqu'où va leur devoir d'exemplarité, Philippe Mesmer, ce devoir d'être irréprochable tout le temps?
Alors ça, c'est lié à la société coréenne. Les stars sont à la disposition de leurs fans, quelque part. C'est très mal vu pour une star d'avoir une relation amoureuse, c'est très mal vu pour une star de fumer en public, donc de donner un mauvais exemple. Donc ils ont un devoir d'exemplarité pour la jeunesse sud-coréenne, et c'est quelque chose qui est très ancré socialement. C'est pas comme les stars françaises, par exemple, qui pire sur un côté rebelle ou contestataire. La K-pop.
Ah, votre liaison téléphonique.
Ça, c'est au contraire, l'avion a des valeurs, et on voit aussi avec le service militaire, hein, les membres de BTS ont fait.
Oui. J'ai l'impression que votre liaison téléphonique s'est mise en mode K-pop, elle aussi, elle vous fait slammer. Non, on a un petit problème de décalage. Pardon, Philippe Mesmer, on va vous reprendre. Je pense qu'il faut relancer votre téléphone. Oui, on vous retrouve dans un instant. Benjamin Joanneau, sur le devoir d'exemplarité des stars de K-pop. Philippe Mesmer nous disait, ils doivent être irréprochables. S'ils peuvent ne pas fumer, ne pas être infidèles, c'est mieux. Il y a encore quelques temps, ils n'avaient pas le droit d'être en couple ou de voir quelqu'un. C'était même inscrit dans leur contrat, comme en France, les jeunes femmes qui prétendaient au titre de Miss France. Et en 2020, un chanteur du groupe EXO avait dû s'excuser après avoir annoncé ses fiançailles avec celle qui est aujourd'hui sa femme. Ses fans l'enjoignaient de quitter le groupe. Cette idée que la star appartient à ses fans, c'est quelque chose de très ancré dans les groupes de K-pop.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est très très important. Alors, sans vouloir faire du culturalisme, je pense qu'on peut aussi y voir quelque chose qui est peut-être propre à la longue durée de la culture coréenne. Je pense que c'était ce que l'on attendait autrefois du souverain, et puis du maître aussi, du maître confucianiste, c'est une exemplarité. Et finalement, à notre époque, les idoles coréennes ont remplacé le souverain, le maître, en tout cas les figures politiques d'autrefois, et on attend d'eux cette exemplarité. Et donc, ce sont un peu des sortes de cadrans moraux de la société. Ils doivent être peut-être encore plus dignes, plus corrects que nous, les auditeurs, les fans.
Avec donc ce devoir d'exemplarité en Corée du Sud, ce qui veut dire aussi, comme le rappelait Philippe Mesmer, faire son service militaire. Le chanteur le plus âgé de BTS, Jin, a dû s'exécuter en 2022 après un long débat. Le service obligatoire en Corée du Sud est obligatoire. Le service militaire pour tous les hommes âgés de 18 à 28 ans dure à peu près un an et demi. Et donc les fans avaient hâte que ça se termine.
BTS est un groupe très actif, mais on sait qu'après Jin, les autres membres du groupe vont devoir faire leur service militaire aussi. Je suis un peu inquiet que cette pause soit prolongée.
Jin est un artiste qui représente notre pays. Je pense qu'il est regrettable qu'il ait une pause de plusieurs années, mais d'un autre côté, c'est un devoir obligatoire en tant que citoyen coréen. Donc une fois qu'il aura accompli son service, je souhaite qu'il puisse retrouver les autres membres de BTS.
Dynamite, c'est l'un des titres les plus connus et les plus récents du groupe BTS. Toujours, on entend d'ailleurs ceux qui écoutent Bruno Mars, par exemple, artistes états-uniens reconnaîtront les influences. On parlera tout à l'heure des influences de la culture états-unienne dans la K-pop, mais beaucoup d'autres influences. Au terme de quel genre de débat, Benjamin Joanneau, ce chanteur de BTS, Jin, avait dû finalement faire son service militaire? Pourquoi ça avait créé autant de questions et de passions en Corée du Sud?
Pour une raison évidente, parce que c'est un groupe planétaire qui a énormément de fans, qui génère énormément d'argent. Et on sait que si ses membres vont aller au service militaire pendant plusieurs années chacun, cela veut dire que le groupe risque de disparaître. Donc il y a une inquiétude par rapport à ce phare du soft power sud-coréen. Mais en même temps, on est dans une société sud-coréenne qui, je crois, a une passion égalitaire. On a, surtout au deuxième XXe siècle et après, une vraie passion pour une société plus égale, peut-être parce qu'on a eu beaucoup de régimes autoritaires. Et de fait, le fait que certaines personnalités, pas simplement que des chanteurs de la K-pop, mais aussi des fils d'hommes politiques, etc., puissent être, on va dire, dispensés de service militaire pour des mauvaises raisons, en fait, fâche une grande partie de la population qui trouve que ce service militaire est quand même une charge très lourde qui pèse sur leurs fils. Et il y a un désir d'égalité et qui peut être tout à fait compréhensible d'ailleurs.
Le texte proposé en 2021 par 15 députés du parti au pouvoir en Corée du Sud et qui proposait d'exempter de service les stars de la K-pop en raison de leur contribution à l'image du pays. Ce texte disait BTS fait un travail équivalent à celui de plus de 1000 diplomates. Donc laissons-les tranquilles. Bon, ils n'ont pas eu raison là, sur ce coup-là. Et donc Jin a dû faire son service militaire. Il est rentré en juin dernier et ses fans, la BTS Army, comme ils s'appellent eux-mêmes, en a parlé comme du D-Day, de cette libération de Jin après un an et demi de service militaire. Et voilà, et maintenant tout le groupe doit y passer et le groupe va se reformer tranquillement et peu à peu. Mais ce qui me permet, Philippe Mesmer, de vous conduire sur la route que vous aviez empruntée tout à l'heure, avant qu'on ne soit coupé, cette idée que la star appartient à ses fans et ce devoir d'exemplarité, vous l'avez raconté dans un article récent pour le journal Le Monde, autour du groupe de K-pop RIZ. Qu'est-ce qui s'est passé avec un de ses membres, Seungan, qui a beaucoup fait parler de lui?
Ce chanteur du groupe RIZ a effectivement commis un impair, puisque des images ont circulé le montrant avec une amie dans un lit ou le montrant en train de fumer. Et ce qui a déclenché la colère des fans sud-coréens, parce qu'il enfreignait en fait ce devoir d'exemplarité auquel il est normalement soumis. Et ça a donné lieu à une divergence de vue, à l'expression de divergence de vue avec les fans étrangers de ce groupe. Puisqu'à l'étranger, ce genre de comportement n'est pas mal perçu, ou du moins ce n'est pas très grave, ce n'est pas jugé très gravement. Donc en fait, il y a eu des mouvements de réaction tout à fait différents entre les fans coréens et les fans non coréens pour critiquer ou pour défendre ce chanteur, qui a été au final exclu du groupe, puisque les fans coréens ont quand même eu le dernier mot quelque part.
Et oui, eux, ils trouvaient indécent, scandaleux de voir des photos de ce chanteur à 19 ans dans un lit avec une copine. La majorité en Corée du Sud est à 21 ans. Alors, à l'étranger, on a riposté en disant, bon, faut pas exagérer non plus, y a rien de grave, mais en Corée du Sud, on y tient beaucoup et on parlera dans le focus tout à l'heure avec Mathieu Berbiguier de la différence d'approche entre les fans coréens et les fans à l'étranger de la K-pop qui n'attendent pas tous la même chose de leur groupe, de leurs idoles. En tout cas, ce chanteur a été tenu à l'écart pendant 10 mois. Et quand il est revenu, les fans coréens n'en voulaient plus. Il y a eu des manifestations devant les bureaux du label, des couronnes mortuaires, des Sungun dégage. Et lui a dû faire amende honorable en disant qu'il allait réfléchir sincèrement sur lui-même et s'efforcer de devenir une meilleure personne. Alors, en tout cas, les idoles de K-pop utilisées dans la construction d'un sentiment national, on voit aussi Benjamin Joanneau assez souvent des vidéos de performances militaires avec des idoles ou des groupes de K-pop qui jouent en costume militaire ou des groupes de K-pop qui jouent devant l'armée. Les images sont d'ailleurs assez saisissantes. Ils sont en effervescence, ces soldats sud-coréens qui regardent des groupes, souvent des girls bands. Comment on les utilise aussi pour ça? Il y a une façon de galvaniser l'armée?
Oui, c'est normal parce qu'on a énormément de jeunes gens qui sont sous les drapeaux, qui sont forcés de le faire et pas heureux de le faire nécessairement. Et donc, il faut un petit peu les distraire. Mais je ne pense pas que ça soit un phénomène majeur. Il est surtout assez rare. Ce que l'on voit beaucoup dans les vidéos, ce sont en fait des idoles qui font leur service militaire. Et plutôt que de les mettre dans un bureau ou tout simplement à un poste de garde, eh bien on leur fait faire des tournées où ils dansent pour le public en tenue militaire. Et donc c'est surtout ce phénomène-là, je pense, mais qui est finalement assez anecdotique.
Avec aussi des groupes de K-pop de filles comme Girls' Generation ou Blackpink qui font des concerts devant des militaires, c'est capté et diffusé, ce sont des vrais événements. Blackpink, par exemple, chante ici « Playing with Fire ». Alors c'est un des groupes de K-pop les plus connus, il a très vite été tourné vers l'international et a finalement implosé en cours de route. Elles sont toutes parties en solo, les chanteuses de ce groupe, et dans des concerts, certains racontent que beaucoup de jeunes filles avaient payé leur place, 1000 euros à peu près, en étant accompagnées de leur mère, la K-pop comme produit de luxe. Alors on a beaucoup dit déjà sur la K-pop au service, cette fois non pas du patriotisme mais de la diplomatie sud-coréenne. C'est toujours le cas, Philippe Mesmer. Quels sont les derniers usages qui en ont été faits? Vous nous disiez tout à l'heure que le groupe BTS était devenu ambassadeur de bonne volonté à l'ONU. C'est-à-dire ils sont allés faire une chorégraphie devant l'Assemblée ou le Bureau international des expositions s'il s'agit de la candidature de la Corée du Sud à l'exposition universelle 2030.
Bah, ils ont fait ça, mais ils sont surtout intervenus lors de conférences organisées par l'ONU sur la diversité ou sur des sujets qui touchent un petit peu leur public, hein, qui sont principalement des jeunes qui sont sensibles aux questions de diversité, aux questions d'acceptation, de tolérance, etc. Et donc, ils ont été souvent sollicités. Donc, c'était surtout du temps du président progressiste Moon Jae-in, qui est au pouvoir entre 2017 et 2022, ils ont été sollicités pour ces questions-là par l'ONU. Et donc, c'était un petit peu le prolongement de leur texte, un petit peu du message qu'ils véhiculent dans leur texte, qui est un message de tolérance, de respect, d'acceptation de la différence, etc. Et donc, c'était un petit peu leur mission, donc promouvoir l'acceptation de l'autre.
Alors la K-pop n'a rien d'une musique traditionnelle, entre guillemets, vous le disiez tout à l'heure, Benjamin Joanneau, elle joue même sur le mélange des genres culturels. On entendait tout à l'heure les influences, par exemple, de quelqu'un comme Bruno Mars aux États-Unis dans une chanson d'un groupe de K-pop. Il y a même eu un duo récemment entre une chanteuse du groupe Blackpink qu'on vient d'entendre, Rosé, et Bruno Mars, qui a été un très très grand succès. Est-ce que la K-pop est née dans le mélange des cultures ou est-ce qu'elle s'y est ouverte progressivement, Benjamin Joanneau?
Non, elle est vraiment née dans le mélange des cultures, parce que je pense que cela fait partie de l'ADN de la K-pop, mais pas que. Hein. J'étendrai cette idée au cinéma, aux séries sud-coréennes. Il y a une notion fondamentale d'hybridité. On va chercher dans différentes cultures, dont la culture coréenne bien sûr à la base, parce que c'est un socle absolument nécessaire et important, on va chercher toutes sortes d'éléments, de la pop, mais aussi, comme vous l'évoquiez, des musiques traditionnelles d'autres pays, pour faire un mélange qui est parfois un peu proche du kitsch, et qui très souvent fonctionne très très bien, et permet eh bien, au monde entier de danser, comme on l'a vu, comme vous le rappeliez récemment avec Bruno Mars et Rosé, par exemple. On a eu aussi l'année dernière Jungkook de BTS et Usher. Donc c'est très souvent qu'on a des collaborations, et ces collaborations sont possibles parce que justement, on a une grammaire musicale qui n'est pas proprement coréenne.
Hybridité et transnationalisme, dites-vous d'ailleurs dans vos travaux, Benjamin Joanneau, tout ce que combat en somme la Corée du Nord. Quelle image a de la K-pop le voisin du Nord?
Eh bien, vous avez tout résumé. Effectivement,
ce sont vos mots.
Terrible. Terrible, parce que ces deux mots de transnationalisme et d'hybridité, je pense que ce sont les pires gros mots pour le régime nord-coréen, qui est très tourné vers ce que j'évoquais tout à l'heure, un nationalisme ethnique, l'idée du un de la nation et aussi de la pureté de la culture coréenne et du peuple coréen. Donc l'hybridité n'est pas du tout valorisée. Quant à l'idée de transnationalisme, cela va de pair. C'est quelque chose qui ne peut être acceptable. Et donc le régime nord-coréen a une image très négative et ne manque pas de l'exprimer avec très souvent des sortes de pics qui ont été donnés au sujet de groupes sud-coréens, les présentant comme étant très efféminés, ce qui bien sûr dans la rhétorique nord-coréenne était une insulte.
Notamment des groupes, des boys bands qui ont été présentés quand Kim Jong-un en a parlé en Corée du Nord comme des groupes de filles. Est-ce que c'est un mythe, Philippe Messmer? Parce qu'on sait néanmoins que les Nord-Coréens connaissent la K-pop, parce que beaucoup de transfuges, comme on dit, ceux qui réussissent un jour à quitter la Corée du Nord pour la Corée du Sud le disent. En général, ils connaissent des artistes. Comment cette musique est parvenue aux oreilles des Coréens du Nord? Le fait que la Corée du Sud envoie des clés USB, par exemple, avec des morceaux, c'est un mythe ou pas?
Non, c'est pas un mythe, mais vous l'avez abordé en début d'émission en parlant de la diffusion par les haut-parleurs géants en direction du Nord. Donc ça, c'était un premier moyen de diffuser une musique sud-coréenne en direction du Nord, mais depuis depuis les années 90 et là le développement de l'informatique, des clés USB, des CD, etc., il y a eu une pénétration petit à petit en Corée du Nord de contenu sud-coréen qui n'ont pas cessé depuis cette époque et qui passent maintenant par d'autres moyens et certainement même des moyens par Internet. Donc il y a une exposition de la population nord-coréenne au contenu sud-coréen qui reflète une curiosité pour ce qui se passe ailleurs, hein, qui se passe chez le voisin. En plus, évidemment, c'est la même langue, donc c'est beaucoup plus facile de consommer ces contenus-là. Donc il y a des contenus qui sont des dramas, hein, des séries, et puis il y a la musique, bien sûr, qui est aujourd'hui écoutée par beaucoup de nord-coréens. Et peu s'en cachent, hein. Effectivement, vous parliez des transfuges, quand ils viennent, ils disent « Ah bah oui, moi j'écoute depuis tant de temps, oui j'ai écouté, c'est assez répandu ». Et puis, ils racontent aussi que les expressions utilisées au Sud deviennent même à la mode en Corée du Nord.
Par exemple ?
Par exemple, la manière d'appeler papa de manière très familière au lieu d'un très respectueux père, par exemple. Mmh. C'est une expression qui se diffuse apparemment en Corée du Nord. Donc la manière de parler du Sud devient même à la mode, enfin deviendrait, selon les réfugiés ou les transfuges, deviendrait même à la mode dans la jeunesse nord-coréenne.
Et alors cette histoire de haut-parleurs, Benjamin Joanneau, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Est-ce qu'on sait à combien de kilomètres ils se font entendre, s'ils diffusent en continu ou si c'est quelqu'un qui les active quand le gouvernement veut répliquer à une bravade nord-coréenne? Et surtout, est-ce qu'ils diffusent vraiment encore de la K-pop?
Alors, moi j'étais sur la frontière il y a pas très longtemps et j'ai fait une promenade et alors à certains endroits on est très proche de ces haut-parleurs Et à ce moment-là, il ne diffusait pas du tout de la K-pop. Je crois que ça a été arrêté par le président Yoon. Il diffusait plutôt une musique stridente qui évoque la musique de films d'horreur des années 70, donc une musique vraiment très très angoissante, entrecoupée de musique classique et puis d'appels parlés. En tout cas, dans la journée que j'ai passée le long de la DMZ, de la frontière, je n'ai pas entendu du tout de K-pop. Je crois que ça a été arrêté il y a quelques années. Mais en tout cas, cette musique, quelle qu'elle soit, et puis ces messages sont aussi diffusés tout le long de la frontière à intervalles réguliers pour essayer d'influencer pas tant les habitants des deux côtés, mais surtout tous ces milliers, centaines de milliers de jeunes gens qui font leur service militaire au nord comme au sud et qui sont donc, malgré eux, influencés par ces musiques et ces messages.
Tous les soldats postés sur cette frontière, alors la stratégie semble avoir changé, puisque vous dites, Benjamin Joanneau, que vous avez plutôt entendu des musiques qui faisaient peur, alors que très longtemps, on a diffusé des morceaux de K-pop avec l'intention de dire aux Nord-Coréens, c'est tellement mieux chez nous et on s'amuse. Alors, je ne sais pas si ça marche, si parmi les rares Nord-Coréens qui traversent la frontière, certains ont dit, j'ai entendu de la K-pop, alors j'ai marché sans me retourner et je suis arrivé en Corée du Sud. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Philippe Messmer, vous avez rencontré, vous, quelquefois des Coréens du Nord en Corée du Sud. Est-ce que vous leur avez parlé, ou eux, de leur éventuelle découverte de la K-pop ?
Oui, bien sûr, je leur ai posé la question. Et effectivement, ils disent qu'ils ont... si c'était des gens qui travaillaient à Pyongyang, ils ont pu avoir accès par des relations à une clé USB, à un CD, à un contenu qui est arrivé comme ça par la Chine ou par d'autres moyens. Par exemple, les ballons qui sont envoyés en Corée du Nord par les réfugiés du Nord qui sont au Sud, ces ballons sont souvent chargés de contenu de K-pop. Donc ils y ont accès, et puis ils regardent, et puis ils trouvent ça pas trop désagréable, donc ils continuent à regarder. Et ça nourrit, même s'ils savent très bien que il y a une part d'exagération, une part du faux, hein, bien sûr, dans tout ce qui est film ou drama ou choses comme ça. Mais ça nourrit aussi une image un petit peu idéalisée de la Corée du Sud, qui peut les inciter à vouloir partir aussi.
Alors, il est arrivé en revanche, mais c'est exceptionnel que le régime nord-coréen organise lui-même un concert de K-pop à Pyongyang. C'est arrivé en 2018. Kim Jong-un était là, et il faut imaginer le visage des spectateurs nord-coréens impassibles devant le groupe Red Velvet interprétant l'un de ses plus grands tubes, Red Flavor. Alors, on mettra la vidéo en lien sur le site de Culture Monde, parce que, Benjamin Joanneau, les images sont vraiment étonnantes de ce concert de 2018.
Oui, au point où on se demande si un mot d'ordre n'a pas été donné au public nord-coréen, parce qu'il y a vraiment des visions vraiment très très drôles, des visages plus qu'impassibles même, presque choqués face à un spectacle qu'ils ne comprendraient pas. Interloqués. C'est sûr que c'est très différent de la musique, même la musique populaire qui est jouée en Corée du Nord, même si elle a évolué. Elle a essayé d'évoluer aussi dans les instruments utilisés, dans le look des chanteurs, dans le répertoire un petit peu aussi. Mais on est très très loin, effectivement, de ce genre musical, et qui nous amène aussi à relativiser finalement un petit peu nos valeurs, nos concepts, parce que ce que nous appelons le pop, ça renvoie à un mot qui est le mot populaire. Or, en Corée du Nord, qui est une république populaire, eh bien, toute musique doit être populaire, toute musique doit être du pop. Mais pourtant, ça n'a rien à voir avec le pop anglo-saxon que nous connaissons.
Ce concert de K-pop à Pyongyang, c'était en 2018, dans un contexte politique de rapprochement entre les deux Corées, sous le président sud-coréen Moon Jae-in. Dans quelle mesure, Philippe Messmer, cette parenthèse d'ouverture s'est-elle refermée de ce qu'on sait, tous les chercheurs sur la Corée du Nord disent aujourd'hui qu'il est devenu impossible d'y aller, notamment depuis le Covid. Mais vous avez fait plusieurs articles récemment sur des sanctions, par exemple, qui ont été prises à l'encontre de ces jeunes dont vous parliez tout à l'heure, qui ont été pris, entre guillemets, la main dans le sac ou l'oreille près d'une enceinte en train d'écouter de la K-pop.
Oui, il y a effectivement une répression qui s'est intensifiée. C'est pas totalement nouveau, hein, puisque même au moment du rapprochement entre les deux Corées en 2018, Il y a toujours une administration qui est le groupe 109, qui est une administration nord-coréenne, qui est chargée de contrôler les contenus numériques, donc qui peut fouiller n'importe quel téléphone, n'importe quel ordinateur de n'importe quel citoyen, et pour vérifier s'il n'y a pas des contenus venus de l'étranger, et notamment de la Corée du Sud. Et parce qu'il y a une vraie crainte du régime à l'égard de la diffusion de ces contenus, et il y a une loi qui a été votée en 2020 contre ces contenus, qui a été renforcée en 2021 par une loi sur l'éducation, et en 2023 par une loi sur la culture et la protection de la langue. Et tout ça, c'est un arsenal législatif qui vise à renforcer la protection entre guillemets de la culture nord-coréenne. Et qui se traduit par des sanctions très lourdes qui peuvent aller jusqu'à l'exécution pour des gens qui se procurent des contenus sud-coréens ou qui les diffusent. Il y a eu d'ailleurs l'année dernière aussi, il y a eu la diffusion à la télévision nord-coréenne, ce qui était tout à fait exceptionnel, du procès d'adolescents qui ont été condamnés à 12 ans de prison et de travaux forcés pour avoir diffusé des contenus sud-coréens.
Et dans cette vidéo du régime avec en voix off, on entendait la culture du régime fantoche pourri s'est répandue auprès de nos adolescents. Vous parliez aussi d'un jeune homme exécuté, 22 ans, il avait téléchargé des morceaux de musique, 70 morceaux et 3 films, on le sait précisément. En tout cas, c'est ce que disent les autorités sud-coréennes, par ailleurs, qui, semble-t-il, en auraient montré les preuves, mais qui a aussi un discours de propagande un petit peu inverse. Mais il y a cette idée en Corée du Nord que le monde extérieur n'est que menace et surtout pas fête ou plaisir. Donc surtout ne rien écouter qui puisse faire penser à la fête ou au plaisir. Alors vous disiez tout à l'heure, Benjamin Joanneau, qu'en Corée du Nord il n'y a pas de K-pop. Il y a quand même ce groupe Moranbang Band qui est composé de jeunes femmes, qui a été monté par Kim Jong-un lui-même et qui n'hésite pas, c'est savoureux, à reprendre I Want To Be Free de Queen. I Want to Break Free de Queen, chanté par le Moranbang Band et le chœur militaire nord-coréen. Tout ça est à Pyongyang, sous les yeux de Kim Jong-un, qui a d'ailleurs trouvé dans le Moranbang Band sa femme, qui était chorégraphe ou chanteuse. Comment sont-elles sélectionnées, les chanteuses du Moranbang Band, Benjamin Joanneau?
Alors c'est une sélection a priori très très rigoureuse, hein. C'est plus difficile certainement que le concours Miss France que vous évoquiez tout à l'heure. On pense qu'il s'agit certainement de jeunes femmes qui font partie de l'aristocratie du régime. Il faut avoir toutes sortes de qualités. Mais en tout cas, cela permet de voir que ce régime nord-coréen a aussi pas mal d'humour, puisqu'il renverse des éléments du soft power sud-coréen et américain, la pop et cette chanson en particulier, pour en faire une forme de pied de nez. Et ce n'est pas la première fois. On a déjà vu aussi dans le cinéma nord-coréen des reprises du film Titanic pour le mettre à la sauce nord-coréenne. Donc il ne faut pas imaginer que cela ne se passerait que pour cette chanson ou que pour la musique.
Avec, c'est vrai, une chorégraphie assez dansante. Alors ce groupe fait des reprises mais compose aussi leurs chansons. Exemple de l'un de ses tubes, Nous ne suivrons que toi, Kim Jong-un par exemple. Alors ces chansons de K-pop, est-ce qu'elles évoquent parfois, Philippe Mesmer, peut-être pour conclure, le conflit entre les deux Corées, où il s'agit toujours de textes vraiment très légers, les plus légers possibles?
Oui, il y a de la légèreté, mais pas seulement. Il y a un des chanteurs qui était intervenu lors de ce concert de 2018 à Pyongyang, qui était lui-même enfant de réfugiés du Nord et qui a, dans sa carrière, chanté le drame des réfugiés, le drame du déracinement. Donc, c'est pas seulement léger, il y a quand même un discours derrière et des messages qui peuvent être beaucoup plus profonds que un simple hédonisme pour se faire plaisir. Donc ça aussi, ça c'est embêtant pour la Corée du Nord quand il y a des choses un peu plus profondes, parce que ça peut pointer du doigt les difficultés du pays, les difficultés du régime.
En tout cas, à voir si les fans aiment autant les musiques quand elles sont chargées, les paroles chargées de sens, que quand elles sont davantage festives et légères. On parlera des fans de la K-pop qui font, qui fabriquent aussi leurs idoles tout à l'heure avec Mathieu Berbiguier pour le Focus, en tout cas dans un instant, après cet album, cet extrait du groupe TVXQ de décembre 2023. J'y arrive pas.
So say you want me 'cause I'm down. So say you want me 'cause I'm down. Love caught in a potion. 한 번에 삼키.
Down, musique du 9e album du groupe TVXQ de 2023. Vous écoutez Culture Monde, le 2e épisode de notre série sur les liens entre musique et patriotisme, aujourd'hui en Corée du Sud, avec les stars de K-pop dont les fans exigent qu'ils soient exemplaires. Mais qu'ils soient sud-coréens ou dans le reste du monde, ces fans de K-pop n'ont pas les mêmes attentes.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La K-pop est souvent abordée sous l'angle de l'outil de puissance douce pour la Corée du Sud et moins sous l'angle de ses fans. La K-pop par le bas, c'est l'objet de vos travaux. Mathieu Berbiguier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec nous depuis Pittsburgh, où il est très très tôt, et vous êtes enseignant-chercheur en études coréennes à l'université Carnegie Mellon. Vous avez soutenu l'an dernier votre thèse sur les fans de K-pop et sur la relation entre les fans en Corée et à l'étranger. D'abord, de quelle façon est-ce qu'ils contribuent, ces fans, à produire leurs idoles en Corée, par exemple, et d'abord, est-ce qu'ils sont sondés, est-ce qu'ils sont écoutés par les producteurs quand il s'agit de monter un nouveau groupe, par exemple?
Alors oui, en fait, quand on fait les études sur la K-pop, on parle souvent en fait du concept de prosumer, donc producteur et consumer en anglais. Et il y a en fait dans ce processus de production, l'avis des fans est toujours pris en considération. Et en fait, c'est là que moi, l'objet de ma thèse intervient, c'est-à-dire qu'au début, on prenait surtout l'avis des fans coréens en perspective. Et puis petit à petit, en fait, ça s'est élargi. Et puis en fait, maintenant, quand une entreprise, un label crée un nouveau groupe de K-pop, eh bien, on prend en fait une audience internationale, qui est un concept d'ailleurs très vague, mais on prend cette audience internationale en compte, quoi.
Est-ce que ça veut dire que les labels envisagent d'abord la carrière des groupes qu'ils vont promouvoir à l'étranger? Et est-ce que ça change quelque chose pour les textes des chansons, peut-être même pour les rythmes?
Alors oui, c'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que donc au début, l'audience internationale était plus un bonus. On faisait les groupes, on produisait les groupes pour la Corée. Si ça marchait à l'étranger, super. Sauf qu'avec le développement de la vague coréenne, comme ça a été évoqué au début de l'émission, maintenant, les entreprises voient plus large, se disent « bon ben le marché coréen, c'est trop petit, il faut qu'on vise plus haut ». Et aussi, on a parlé beaucoup d'hybridité dans la première partie de l'émission. En fait, le processus de création des chansons de K-pop, c'est très international. Il y a des producteurs qui viennent des États-Unis, de Scandinavie. Ces jours-ci, on a de plus en plus d'influences de musique populaire africaine. Donc, c'est vraiment un processus international.
Et quand est-ce que ça change quelque chose pour les concerts, par exemple ? Il y a des traductions automatiques qui se font avec l'intelligence artificielle dans des deux côtés, c'est-à-dire quand un groupe se produit en Corée du Sud, il est retransmis pour les fans à l'étranger en anglais et vice-versa.
Alors ça, c'est en fait c'est une tendance qui est arrivée avec le Covid. Il y a eu de plus en plus, vu que les gens ne pouvaient plus voyager pour se rendre au concert, et puis que aussi même il y avait plus de concerts du tout. On a vu la montée en Corée des événements qui s'appellent on-tect. C'est un mot un peu coréen-anglais en fait pour dire que justement il n'y a pas de contact. Et les concerts de K-pop ont commencé à être retransmis à l'international en streaming. Et maintenant, c'est devenu en fait un peu quelque chose qui est par défaut. À chaque fois, quand il y a un grand groupe qui a les moyens de streamer son concert, il le stream en ligne. Et il y a en effet une traduction avec l'intelligence artificielle. Ou parfois, quand les labels veulent bien investir, ils prennent un vrai traducteur qui écrit les sous-titres en direct.
Et les sous-titres en anglais ou toutes les influences de plus en plus internationales sur la K-pop coréenne, est-ce que c'est entendable dans tous les sens du terme pour les fans coréens? Est-ce qu'ils sont fiers de cette reconnaissance internationale ou est-ce qu'ils préféreraient que leurs idoles chantent en coréen, gardent les codes coréens?
Oui, bien en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que moi, dans mes travaux, ce que j'ai vu, c'est qu'au début, il y avait une certaine fierté de voir l'artiste que l'on aime se produire à l'étranger, avoir des fans dans le monde entier. On a parlé tout à l'heure de BTS à l'ONU, ce genre de choses. Ce genre d'événements crée beaucoup de fierté de la part des fans coréens, mais en même temps, on a aussi, dans la société coréenne, il y a quand même une grosse pression due, par exemple, à la nécessité d'apprendre l'anglais, que si on n'apprend pas l'anglais, on ne va pas réussir dans le monde du travail. Et donc, quand on voit que maintenant, les entreprises de K-pop doivent absolument mettre du contenu en anglais, faire en sorte que même les fans internationaux puissent suivre. Et puis aussi, ce qui crée aussi un problème chez les fans coréens, c'est que les fans internationaux sont demandeurs. Quand un artiste, par exemple, va se connecter sur Instagram et faire un live et qu'il va parler coréen, on va voir dans les commentaires « Ah, s'il vous plaît, parlez anglais, on comprend rien ». Et du coup, les fans coréens ont tendance à dire « Oui, si vous voulez comprendre, vous avez qu'à apprendre le coréen ».
Et parce que à votre avis, d'où ça vient cette forme de, j'allais dire, traumatisme? Mais non, est-ce que c'est un patriotisme qui se manifeste là, chez les fans aussi? Est-ce que c'est tout simplement qu'on en a marre d'entendre parler anglais partout? Est-ce que aussi l'apprentissage de l'anglais dans les écoles en Corée, où quand même l'ambiance est assez difficile, peut avoir joué dans ces exigences des fans sud-coréens?
Oui, je pense que c'est plutôt un sentiment La K-pop était faite à l'origine pour un public en majorité coréen, et puis donc de voir que maintenant le focus est sur le global, qui est un mot qui est très important en Corée du Sud. On veut que tout soit global parce qu'on veut avoir une vision de l'international. Ça les gêne dans cette mesure, et de voir que même parce que c'est un échappatoire pour beaucoup de jeunes sud-coréens. Ils sont stressés avec les études, ils sont stressés avec on a parlé tout à l'heure des chansons de BTS qui parlent des problèmes de société, de l'école, de l'éducation, tout ça. Et donc, du coup, aimer la K-pop, c'est leur échappatoire. Et donc, de voir que même dans cet échappatoire, il y a une réflexion de ce qui les dérange, forcément, ça ne leur fait pas plaisir.
Qu'est-ce que c'est la vraie K-pop pour tous les puristes, les fans de K-pop qui, en Corée du Sud, quand ils échangent avec les fans du monde entier, que ce soit en Europe, aux Philippines, au Mexique, ils sont partout, les fans de K-pop, qu'est-ce qu'ils mettent en avant de ce qu'était avant la K-pop et qui seraient les groupes qui en seraient encore à leurs yeux les dignes représentants?
Alors, c'est une question qui, en fait, est le centre de mes travaux, puisqu'en fait, je vois qu'au fur et à mesure, les fans coréens et non-coréens de K-pop se battent un peu pour une vision de l'authenticité et de la vraie K-pop, qui est caractérisée par des chansons en coréen, par exemple. On a parlé tout à l'heure de BTS. Quand BTS a commencé à sortir des chansons en anglais, il y a une certaine partie des fans et puis des gens qui aiment la K-pop qui n'ont pas forcément apprécié que les chansons soient 100% en anglais. De nos jours, on a de plus en plus de chansons de K-pop qui n'ont pas de coréen du tout. Donc ça, il y a une question de langue qui crée cette histoire de la vraie K-pop. Et puis il y a aussi les membres, puisque du coup, au fur et à mesure, on commence à avoir l'apparition de groupes de K-pop où il y a soit pas de coréens du tout, ou peu de coréens par rapport au reste des membres. Et donc, du coup, petit à petit, on a des discours qui se créent en disant « Ah, c'était mieux avant, quand ils ne chantaient pas en anglais, quand il n'y avait pas ce focus sur les membres non-coréens, tout ça, tout ça. »
Vous pensez à quoi? Le girls band, par exemple, Cat's Eye, qui a été recruté par le label voilà. de BTS et un autre label états-unien, Griffin Records. En fait, il y a des groupe de K-pop qui se forme ailleurs qu'en Corée du Sud maintenant?
C'est ça. Donc en fait, le groupe Cat's Eye, il a été créé en fait, comme vous dites, par HYBE et un label américain, Geffen Records. Et tout leur processus en fait a été documenté à travers une série qui est sur Netflix d'ailleurs. Et du coup, c'était aussi une volonté des deux labels de montrer un peu ce processus pour leur montrer aux fans qui pourraient être sceptiques à l'idée d'un groupe de K-pop qui n'est pas basé en Corée, pour leur dire, vous voyez, non, la Corée est bien impliquée dans le processus. On suit tous les codes d'un groupe de K-pop, elle s'entraîne très dur, donc on rentre quand même finalement dans les conditions de l'authenticité pour montrer que non, ça marche, il n'y a pas de problème.
Dans ce groupe, il y a une sud-coréenne mais qui chante en anglais, il y a une philippine, une suisse-italienne, une états-unienne et un autre label de K-pop, SM Entertainment, a constitué un groupe britannique, le Dear Alice, et là ce ne sont que des garçons anglais. À chaque fois, ça suscite des réactions, encore une fois, Mathieu Berbiguier.
Oui, et c'est justement là que c'est intéressant, c'est que la plupart des réactions virulentes se trouvent en dehors de Corée. Mmh. Et donc, tout à l'heure, on a parlé du concept, justement, du ethnicité unique et que les Sud-Coréens ont grandi avec cette idée qu'il n'y avait qu'une ethnicité en Corée, qu'ils faisaient partie d'une seule et même ethnicité. Et en fait, on retrouve ce discours chez des fans qui ne sont pas du tout coréens et qui vont dire ah ben non, la K-pop, il faut absolument que ce soit des Coréens. Parfois même, ils vont dire bon, si ce n'est pas des Coréens, au moins des Asiatiques. Donc on a ce discours en fait qui commence à se perpétuer. Et en comparaison, les fans sud-coréens, ils sont juste surpris, amusés, mais ils vont considérer ça comme quelque chose qui n'est pas vraiment de la K-pop.
Merci beaucoup Mathieu Berbiguier d'avoir été avec nous depuis Pittsburgh, où vous êtes enseignant-chercheur en études coréennes à l'université Carnegie Mellon. Je remercie aussi nos deux invités, Benjamin Joanneau, docteur en anthropologie culturelle, chercheur associé au Centre d'études coréennes à l'EHS à Paris et maître de conférence à l'université Hongik. Je cite le dernier livre que vous avez fait paraître aux éditions Atelier des cahiers, faire du terrain en Corée du Nord, écrire autrement les sciences sociales. Et merci à Philippe Mesmer, correspondant à Tokyo, pour Le Monde et L'Express, et qui couvrait aussi les deux Corées. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Avec Mélanie Kuzelevitch cette semaine, au Soudan, Mélanie, les ONG sont forcées de partir à cause du conflit armé.
L'ONG française Médecins Sans Frontières doit suspendre toutes ses activités dans le camp de déplacés de Zamzam, dans le Darfour du Nord, explique dans un communiqué MSF relayé par La Libre. Trop dangereux, commente Al Jazeera, malgré la faim généralisée et les immenses besoins humanitaires, nous n'avons pas d'autre choix, selon MSF. Ce camp abrite au moins un demi-million de personnes, rappelle L'Orient le Jour, la plupart déplacés par la guerre déclenchée en avril 2023. Décision sans appel de MSF. l'ASF après l'attaque du camp le 11 février dernier par les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide et les deux jours de combat qui ont suivi contre l'armée et les milices alliées. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU avait alors alerté sur la situation humanitaire dans le camp. Stéphane Dujarric, traduit par Africa News.
Nous sommes particulièrement préoccupés par l'impact de la violence sur les civils à l'intérieur et autour du camp de déplacés de Zamzam à El Fasher, la capitale du Darfour Nord, suite à l'escalade des hostilités au cours de la semaine dernière. Environ 5500 personnes ont été déplacées et ont cherché refuge dans la localité de Chamal Jabal Mara au Darfour central.
MSF était jusqu'à présent l'une des dernières organisations humanitaires à encore officier dans le camp de Zamzam. Le premier, où l'état de famine a été déclaré en août dernier, rappelle Lorient Le Jour. Arrêter le projet au milieu d'une crise qui s'aggrave est une décision déchirante, souligne Yahya Khalila, le directeur de l'ONG au Soudan. Mais avec les violences, les difficultés à envoyer du matériel et l'impossibilité de faire venir du personnel expérimenté, il n'y a pas d'autre alternative, ajoute le directeur. Rien que ces trois dernières semaines, l'hôpital de campagne de MSF a reçu 139 blessés, rapporte le quotidien libanais, la plupart blessés par balles ou par des éclats d'obus. Alors que les FSR et leurs alliés viennent d'annoncer former un gouvernement parallèle, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre une nouvelle escalade dans le pays déjà fragmenté, note Al Jazeera. Au plan militaire, beaucoup de choses vont dépendre des actions des puissances étrangères, analyse le quotidien sud-africain Mail and Guardian. Au plan humanitaire également, avec le gel des aides américaines, déjà 80% des cuisines d'urgence ont dû fermer au Soudan, a appris la BBC. Les gens risquent de mourir de faim, alertent les bénévoles dans le média britannique.
Aux États-Unis, Melanie Kuzelevich, l'entreprise Starbucks est en difficulté, elle licencie plus de 1000 salariés.
Bouder les lattés à 8 dollars et les longs délais d'attente, relève le New York Times. La chaîne de café se restructure alors que les ventes et la fréquentation sont en chute libre depuis l'année dernière, souligne le Financial Times. Sur les 16 000 salariés que compte la boîte dans le monde, 7% sont remerciés, soit la plus grande vague de licenciements depuis 2018 dans l'entreprise, note El País. Les employés qui travaillent dans les 21 000 cafés à travers le monde, eux, ne sont pas concernés, précise le Financial Times. Le nouveau PDG, Brian Nicole, ancien patron de Chipotle, chaîne de restauration rapide mexicaine débauchée pour redresser la chaîne de café, lui dit vouloir plus d'efficacité. Il faut supprimer les doublons, affirme-t-il dans le Wall Street Journal. En plus des licenciements dans les bureaux, Nicole simplifie la carte. Terminé les Royal English Breakfast Latte, le White Hot Chocolate et plusieurs types de frappuccino compliqués. Plus d'un tiers du menu va être supprimé l'année prochaine, rapporte la BBC. Changement prévu le 4 mars prochain, selon le média britannique. Et le résultat est immédiat, pointe le Wall Street Journal. Juste après l'annonce des licenciements, l'action de la chaîne de café a gagné 1,29% en bourse.
Enfin, une question qui n'a pas grand-chose à voir, quoique, qui agite la presse internationale, Mélanie. Est-ce que les croissants français vont être remplacés par les medialunas argentines ?
C'est l'interrogation ce matin du très sérieux El País, car de plus en plus de pâtisseries argentines apparaissent dans les vitrines des boulangeries espagnoles. La différence entre les croissants et les medialunas, c'est vrai, les deux pâtisseries ont quasiment la même forme. Les medialunas sont plus recourbées à leur extrémité, ce qui permet aux pointes de rester plus croustillantes quand le centre, lui, reste plus moelleux. Selon le quotidien El País, les boulangers s'accordent à dire que les medialunas sont plus sucrées, plus riches. Elles ne sont pas sans 100% feuilleté et ressemble presque à un petit pain dans la texture. L'article nous emmène de boulangerie en pâtisserie madrilène interrogeant plusieurs chefs pâtissiers sur leur recette de medialunas. Un peu de zeste d'orange par-ci, du lait et de la vanille de Madagascar par-là. En tout cas, les Espagnols sont conquis. Mais rassurons-nous, Julie, malgré l'apparition des medialunas dans certaines boutiques à la mode, le croissant français et sa pâte feuilletée continuent de régner sans conteste dans les boulangeries et les cafés, conclut El País. Pour approfondir l'un des sujets de la revue de presse internationale, écrivez-nous sur fcrdpi@radiofrance.com. Nous répondrons à vos questions et vos remarques dans la revue de presse internationale du samedi.
Merci Mélanie Kuzelevich.